bazuca.
San Jos, escucho Radio Panic, Radio Pánico.
Слушайте Радио Паник в Сенжо.
Салам алейкум, ни кайжбни нисмаа Радио Паник.
Радио Паник галабе кайсоё.
Allemand, amhari, assyrien, syriaque, chinois, mandarin, créole, farsi, grec moderne, japonais, wallon, tamazir, flamand occidental, russe.
Radio Panic, la radio qui délie les langues, toutes les langues. Du 22 avril au 12 mai, le 105.4 FM ne gardera pas les langues dans ses poches. Traduction, diversité linguistique, quelle langue pour l'Europe? Bruxelles, polyglotte, intercomprensione. Ces thématiques seront déclinées à travers des magazines d'infos, des reportages, des émissions musicales et des créations sonores. Tout le programme est disponible sur radiopanique.org.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Djibouti comme tous les mardis entre 18 et 19 heures. Ce soir, un programme bien chargé.
Bah oui, on continue à délier les langues. Ça fait déjà 3 semaines. Là, ça va être la 3e semaine. On n'arrête pas.
Quand est-ce qu'elles seront libérées, ces langues-là? Faut être déliées, elles vont être libérées un jour.
Officiellement, la programmation continue jusqu'à ce dimanche, mais ça se prolongera peut-être encore un petit peu. Mais voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, une émission spécialement dédiée aux Catalans. Donc cette langue qu'on parle en Catalogne, donc dans le nord-est de l'Espagne,
et dans avec le sud-est de
Barcelone,
la France.
Et le sud-est de la France, oui, tout à fait. On la parle aussi dans d'autres endroits, mais bon, on vous en dira plus, on verra ce que c'est que le catalan, on verra la culture qu'on trouve en Catalogne, on verra des questions politiques, on verra tout ça avec deux invités, Anthony Torres et Curro Lobillo. Voilà pour la deuxième partie de l'émission. En première partie, un agenda, puisqu'on est toujours à l'affût de ce qui se passe à Bruxelles, Hubert.
Ouais, comme c'est la semaine, enfin le mois délier les langues, bon, il n'y a pas eu d'agenda complet une journée. En fait, chaque semaine, on débrief, enfin on débrief non, on annonce les concerts qui viennent pour la semaine. Et cette semaine-ci, c'est assez chargé, ça commence par deux événements à ne pas rater, c'est demain. Et tout de suite, je vous laisse découvrir ce qu'il ne faut pas rater. extrait de son album Apia Qua Bridge. C'était le morceau Handsome Dui et c'est Ebo Tyler, bien sûr, évidemment, sorti en 2012. Donc c'est le grand retour d'un vétéran. Imaginez qu'il a commencé à jouer fin des années 60 et qu'il est un des maillons entre le High Life, qui est une musique donc de l'Afrique de l'Ouest qui mélangeait le jazz, la pop et les rythmes africains. Entre le High Life donc et l'Afrobeat, lui c'est un guitariste chanteur et donc il a commencé à la même époque que Fela Kuti, hein, qui a aussi commencé fin des années 60 par un groupe de High Life aussi, et qui sont donc, c'est lui qui a vraiment mis en évidence l'Afrobeat. Mais Ebo Tyler est une des chevilles ouvrières de ce mouvement également. Il sera en concert exceptionnellement le 8 mai à l'Espace Sangor et ce sera suivi par une soirée Afrobeat avec DJ Ridou, bien sûr. Le 8 mai, il y a aussi un concert à musique publique dans leur festival Banjo Time, festival thématique. Vous allez voir que cette semaine, il y aura plusieurs concerts Banjo Time. Ce sera Steve Louvat, ce sera Bruges Bruxelles, donc c'est un concert de midi. Prochain événement à ne pas rater, c'est aussi le 8, hein, là, je suis désolé, mais les deux événements à ne pas rater cette semaine, c'est demain, mercredi, effectivement, et bon, il va falloir choisir entre les deux. Je vous propose aussi de découvrir, et puis je vous annoncerai de quoi il s'agit.
Es el tigrillo audaz, es el tigrillo arriba, es el héroe fuerte animal que encontrará la salida, es el gigante mítico que protege nuestra guarida.
Alors, vous écoutiez The Meridian Brothers, extrait d'un EP Escuchen el Grito. C'est pour annoncer la Night Shop Party à Recycla. Alors là, c'est de la musique du monde, mais vraiment hyper moderne. Meridian Brothers, c'est un des musiciens de Fuente Cumbiero. Fuente Cumbiero, un groupe très actif, puisque un autre de ses membres de ce groupe est à la base du projet Onda Tropica, dont on vous a beaucoup parlé sur Djibouti. Ici, donc, c'est le guitariste et son projet s'appelle Meridian Brothers. C'est une espèce de musique du monde latine mutante, plutôt électronique avec des instruments et des mélodies complètement concassées. C'est assez intéressant, c'est pas toujours facile à écouter, mais c'est assez intéressant. Alors, ce groupe sera accompagné par toute une série d'autres projets. DJ Leblanc, DJ Funky Bompa and the Wild, Funky Bompa, on en parle souvent à Bruxelles. C'est un spécialiste des vieux vinyles qui cherche des perles autant efficaces que des fois comiques. DJ Hugo Mendes, je ne sais pas très bien qui c'est, vous découvrirez ce soir, non, le 8 mai, au Recyclard. Et alors, il sera aussi accompagné par Capitol K, on vous en a déjà pas mal parlé aussi, puisque lui aussi il crée une musique latine tout à fait mutante. C'est un DJ anglais qui a voyagé en Amérique latine et vous allez voir que la cumbia qu'on connaît, ben on la reconnaît plus du tout. Capitol K, je vous propose d'écouter White Steel. We'll be right back. Voilà, hélas, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour vous parler de tout ce qui se passe cette semaine. Donc, on va vite aller vers la suite. Bon, juste, on vous débriefe ça. C'était Recyclar, Nacho Party. C'est demain, 8 mai. Je pense que ça commence aux environs des 8 heures et ça dure jusqu'à la aube. Hein. Recyclar, vous savez, ça dure très tard. Le 9 mai, au Beaux-Arts, vous avez Arcangel, un récital de chant flamenco. Alors, du 9 au 11 mai, au Bronx, vous avez un festival assez étonnant. C'est du film, mais je voulais en parler parce que c'est assez étonnant. Ça s'appelle Festival Massi Madi, Festival Lesbien, Gay, Bi, Trans d'Afrique et de sa diaspora. C'est assez étonnant pour qu'on vous le signale. Le 10 mai, au Botanique, dans les Nuits du Botanique, Winston McAnuff and Fixie avec d'autres groupes. À Musique Publique, Brass Afrique, c'est toujours dans la thématique Banjo Time avec The Ghana Connection featuring King Ayisoba. Donc, il joue un banjo traditionnel du Ghana. Alors, du 1 au 31 Festival Puentes Bruselas, je vous ai noté quelques petits concerts pour ce festival Puentes Bruselas. C'est un festival de culture argentine proposé par l'ambassade d'Argentine. Le 10 à la Tentation Tango Tinto, sélection nationale de tango. Le 12 au Walk Puente del Inca, c'est un concert de charango argentin. Et alors le 15, Auditorium Baudouin Schubau, bâtiment Baudouin. Ça sera là à 11h30 et c'est le musée écologique, ça me semble assez chouette. Ça parle de tous les instruments à base de ukulélé, etc., etc., etc. Donc ça peut être assez intéressant puisqu'il y a effectivement des instruments assez proches de ça dans toute l'Amérique latine. Hein, le tiple en Colombie, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, au Brésil, on a aussi une petite guitare. On a des petites guitares un petit peu partout en Amérique latine. Donc ça peut être assez intéressant. Du 10 au 12 mai, festival Cocopelli, c'est à Goulegum, à Courtrai, c'est un nouveau festival, c'est la deuxième fois qu'ils le font. Il y a toute une série de groupes, je vous cite juste les plus connus: Postman, Palenque, Soul Tribe, Capleton and the Prophecy Band, Bicamera Junior, Staff the Leader, La Pegatina. Ça dure donc 3 jours, du 10 au 12 mai, c'est ce week-end. Le 11 mai, à Musique Publique, Banjo Time, on continue avec un banjo typique du Japon. Cette fois-ci, vous voyez que le banjo, ça a circulé un petit peu partout dans le monde. Ce sera un musicien qui s'appelle Shunsuke Kimura Etsuro Ono, à Musique Publique, le 11 mai. Le 11 mai, en plein air, il y aura Jamming Jet, hein, comme chaque année, sauf l'année passée, où ils ont fait une petite pause, là, parce que c'est quand même un truc fatigant à organiser. Cette année-ci, l'affiche On prend l'air, Kela Souf, Azu Leo, qui est du flamenco, si je ne me trompe pas, La Fanvare du Belgistan, Lecheboure, Dobegnaware, Fron Eyebrown, dont je pense que Nathalie pourrait nous dire un petit mot, les frères Smith, Abdoudet et La Fanfare en pétard. Fron Eyebrown, Nathalie, tu le conseilles, hein, c'est le projet, je pense, des Waldbourg machin, là.
Oui, entre autres, du chanteur et de deux autres collègues du groupe, et c'est très très bon. C'est un mélange de hip-hop, jazz, enfin, à découvrir, moi je dis. C'est...
D'accord.
C'est très bien.
À découvrir en plein air, donc, à Jamming Jet dans un parc à jet. Allez voir Jamming Jet sur internet pour plus d'informations. Et alors le 14 mai, Tentation Ijas. Et je vous propose qu'on termine donc cet agenda écourté, puisque c'est juste pour la semaine, avec On prend l'air et une version Marina des Canaries. Vous allez voir une version du folklore belge. Carrément du folklore belge. êtes toujours sur Radio Boutique, sur le 105.4 Radio Panique. Vous nous écoutez en streaming sur radiopanique.org sur le net et tous les podcasts des émissions depuis déjà quelques années sur notre site www.duboutique avec un K à la fin, .be. Et ce soir, après un court agenda, on se lance dans le bain du catalan, de la Catalogne avec nos invités. Aymeric, c'est à toi.
Oui, bah Hubert, voilà, comme on l'avait annoncé, eh bien, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pourquoi le catalan? Bon, il y a eu un festival récemment qui était dédié à la Catalogne avec beaucoup d'événements. C'est une langue qu'on connaît pas très bien. En tout cas, on connaît un peu l'espagnol ici à Bruxelles, mais le catalan moins bien. Puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même une actualité assez récente qui fait parler de mouvements indépendantistes. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là nous intéressait aussi. Pour les liens avec la Belgique, puisqu'il y a des similitudes quand même. Ce sont des régions qui font partie d'un pays, mais où il y a une langue qui est importante, qui a une statue importante, qui a une forme de reconnaissance institutionnelle, mais qui se rapporte quand même à un État central, on va dire, même s'il y a des différentes manières de s'y rapporter. Ce sont des régions, donc la Flandre, si on compare, et la Catalogne riche plutôt, et donc il y a aussi la question du bilinguisme, puisque autant en Catalogne que en Flandre, la question s'est posée, la question du bilinguisme, mais en Catalogne, elle se pose encore actuellement. Donc voilà, il y a des points communs, et donc c'est vrai que ça méritait bien qu'on se lance dans l'aventure, tout ceci. Alors on a deux invités, donc Anthony Torres, enfin deux Espagnols vivant en Belgique depuis assez longtemps. Anthony Torres, bonsoir.
Bonsoir.
Et Curro Lobillo qui est avec nous.
Bonsoir.
Voilà, peut-être vite une petite présentation, chacun d'entre vous, voilà, sur. Voilà, rapidement.
Oui, bonsoir, merci de votre invitation. Moi, je suis en Belgique depuis 2001 je suis membre d'un cercle culturel qui s'appelle Casal Català de Bruxelles. Mais donc, je suis venu ici à titre absolument personnel. Par l'intérêt, merci de ton invitation. Et je suis très intéressé par les questions que vous discutez aujourd'hui. En fait, le Casal Catalan existe depuis 1930 ici. Et depuis au moins 30 années, organise des cours de catalan à qui le veut. Donc, vous êtes les bienvenus à en savoir de plus, davantage.
Merci.
Bonsoir, je m'appelle Curro. Moi, je suis andalou à l'origine. La question catalane, ça m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai un point de vue non classique, disons autant qu'andalou, parce qu'en Andalousie, il y a pas mal de gens qui voient les choses très polarisées. Moi, je suis plus proche à la question catalane, même en étant à l'extérieur. Et voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'apporter quelque chose pour les débats. Voilà.
Ok, super, merci beaucoup. Et donc voilà un petit peu donc, le programme. Donc on va faire une introduction sur l'histoire de la Catalogne. Et puis on parlera plus de choses culturelles, la musique et puis des symboles aussi culturels de l'Espagne. On parlera de la langue également. Et on terminera avec le plus d'actualité récente. Donc voilà, première partie donc sur l'histoire de la Catalogne. Bon, c'est une histoire qui est assez ancienne, puisque déjà on a cette date de 1714 où il y a eu le siège de Barcelone. C'est une date importante pour les Catalans. Ah oui, encore une chose à rajouter, bon, je ne sais pas si on aura le temps d'en dire quelque chose, mais outre le parallélisme de situation entre la Belgique ou la Flandre et la Catalogne, il y a aussi des liens quand même entre des Catalans et la Belgique, puisqu'il y a des exilés catalans qui sont venus se réfugier en Belgique et qui ont par la suite noué des liens avec la Catalogne. Donc ça, c'est encore un petit élément en plus. Donc voilà, l'histoire de la Catalogne est assez ancienne. Et on n'est pas toujours au courant. Est-ce que tu pourrais peut-être, Anthony, nous donner quelques éléments historiques sur la Catalogne?
Avec plaisir. Donc tout premièrement, quand on se retient, ni pour le mieux ni pour le pire, mais différent du point de vue historique, il faut dire que nous, on revendique notre condition de comté catalan de la marque, dépendant de l'empire des francs. Nous, on déclare l'indépendance en 988, donc il y a plus de 1000 ans là maintenant. C'est anachronique si l'on veut, mais il y a une unité politique qui se forme comme terre de frontière entre l'Andalous, qui était tout le territoire de l'Espagne qui était dominé par les musulmans, et le territoire de ce qui était avant la France.
D'accord.
Après, de certains conflits avec tous les voisins, comme partout en Europe, on se consolide en puissance commerciale maritime et on s'élargit en compagnie des Aragonais jusqu'à Valence, jusqu'aux îles Baléariques, un peu partout en Méditerranée. On fait, plutôt que de conquête territoriale, on fait des rapports commerciaux très très poussés. Mmh. Et puis il y a l'intégration espagnole qui est plus ou moins traumatique. Donc il y a à la base il y a un mariage entre deux rois, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, en 1462, si je ne me trompe pas, ou 69. Et puis donc, quand l'Espagne, après la découverte d'Amérique, devient une puissance militaire, un empire, il y a des divers moments où les tensions territoriales entre centre et périphérie, comparablement à ce qui étaient les Pays-Bas espagnols alors, donc ce territoire depuis l'on parle aujourd'hui, ou le Portugal même, expriment leur mécontentement avec le pouvoir central axé sur Madrid. Le point le plus important pour nous au niveau de la mémoire, c'est 1714, parce que dans la guerre de succession au trône de l'Espagne, disons que les terres de l'ancienne couronne d'Aragon soutiennent l'empereur Charles, l'archiduc d'Autriche, et ils perdent la guerre. Et donc Barcelone fait une défense à outrance, une résistance à outrance qui lui coûte beaucoup en termes de
vie humaine.
Oui, de vie humaine, de perte de dignité, de préservation de la mémoire. Il y a beaucoup de feux qui brûlent leur mémoire archivistique, etc. Donc, quand Barcelone tombe, il y a une mémoire d'un pays.
D'accord.
Dans un empire qui disparaît pratiquement. Donc là, okay. C'est un peu ce qu'on commémore le 11 septembre, chaque 11 septembre.
D'accord. C'est le 11 septembre en plus.
C'est le 11 septembre catalan. Hein.
Oui, voilà.
Bon, alors voilà, bon, pour quelques éléments historiques, en 1973, je crois, il y a un accord qui s'inscrit, je pense, dans la Constitution, et où on parle, où il y a une forme de régionalisation qui est reconnue
oui.
Je vois que bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour expliquer peut-être,
oui.
Peut-être plus du point de vue linguistique cette fois-ci, mm-hmm. parce que c'est à ce niveau-là mm-hmm. que ça s'est joué. On reconnaît à différentes provinces en Espagne mm-hmm. La possibilité d'utiliser une autre langue que l'espagnol dans ce qui est l'administration, dans les médias par la suite. Mais donc, voilà, il y a un cadre quand même qui existe depuis 73.
En 78, en fait, 78. C'est la passation de la Constitution espagnole qui ouvre la porte à...
Une révision de la Constitution.
Non, il n'y avait pas de Constitution.
Il n'y en avait pas.
Autant que tel, il y en avait eu une de caractère libéral 1812. Dans la ville...
1812,
oui. Mais elle n'était plus valable sous le régime de Franco. Donc, en 78, on se mit d'accord pour laisser arrière donc, les tensions... gauche-droite compris vaguement, donc disons fascisme, antifascisme, communisme, anticommunisme, etc. Et les tensions régionales, centre-périphérie, surtout parce que nous avons une masse critique à l'intérieur de l'Espagne beaucoup plus importante que les Basques ou les Galiciens en termes populationnels. Hein. Mm-hmm. Donc, ça a été plus, peut-être plus critique chez nous. Parce qu'on est quand même, on était à l'époque 5,5 millions d'habitants. Donc,
sur 40 millions, plus ou moins.
Non, c'était pas si grand que ça alors. Je crois qu'on était 34 millions.
Ouais, d'accord. Okay.
Alors, petite précision quand même sur l'historique, parce que c'est vrai que j'ai dû un peu réduire la chose. Et bon, quand on fait les parallèles entre Flandre et Catalogne, bon, il faut dire quand même qu'en 1930 ou 31, je crois même, mm-hmm. il y a eu exact. Une déclaration d'indépendance de la Catalogne. Et donc, bon, ça, il y a eu quand même quelques années où on était là avec. Enfin voilà.
Oui, en fait, la proclamation de la République. Voilà. Catalane a duré 3 jours.
Voilà.
On l'a déproclamé pour architecturer tout ce qui était la nouvelle République espagnole, donc la deuxième République, qui a tenu jusqu'à la fin de la guerre. Et là, disons que le pouvoir structurel de la Catalogne était, en sauvant les différences, beaucoup plus importante du pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Mais la situation socio-économique et les tensions qu'il y avait, disons, avant le nazisme, avant toute la radicalisation de l'Europe, donc de partout en Europe, faisait que c'était. Donc on remarquait moins. Mais quand même, il y avait. Le parti qui a proclamé cette indépendance, qui est la gauche républicaine catalane, avait un ambassadeur ici. Donc il y avait un ambassadeur.
Catalan à Bruxelles.
Cataliniste, dans le sens. Il y a des diplomates, des gens diplomatiques catalans, mais qui avaient des sigles politiques qui prenaient l'indépendance.
D'accord.
Donc, ce n'est pas imaginable aujourd'hui. Ce l'était à l'époque.
Ok, on va faire une petite pause musicale, puisque voilà, on vous parle de la culture catalane aussi. Il y a énormément d'artistes. Alors, Anthony, tu nous as amené un disque de Roger Mas. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous présenter la chanson qu'on va écouter ?
Oui, avec plaisir. Roger Mas est un jeune homme de Solsona, d'une petite ville de la Catalogne. Et il a repris dans son disque les chansons telluriques, les canciones telluriques, des poèmes écrits plus de 100 ans auparavant, de caractère mystique, dans la première partie du disque, et à caractère local, pour se recommander au bienfait de la sainte patronne de la commune, en mérite. Et donc, c'est un Jacint Verdaguer qui est l'un des plus grands écrivains qu'on compte dans notre histoire de littérature, qui parle de la vie après la mort, et donc voilà, et il la chante dans une mélange très très moderne à mon avis.
On écoute Roger Mas.
Ja he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, d'onades de tristesa. Per aquest camí anem-nos en barca meva. Cap a la mar del cel, avui que està serena. Ací navego a rem, allà ho farem a vela. Sens témer los esculls, sens por de la tempesta. Ai, en la mar de si, taurons ja i balenes. A la d'allí tots són blanquíssimes nimfes. En la d'allí tots són blanquíssimes nimfes. Florides en l'atzur entre els granalls d'estrelles. navego a rem, allí ho farem a vela. Sens temer los esculls, sens por de la tempesta. Ací navego a rem, allí ho farem a vela. Sens temer los esculls, sens por de la tempesta.
Voilà, sur dans Djiboutique avec nos invités. Aujourd'hui, on parle du catalan avec Curro et Anthony. Donc, on passe au volet culturel, des spécificités culturelles de la Catalogne. Il y a eu récemment beaucoup de concerts liés à la Catalogne, puisque il y a eu la Coble Sant Jordi, qui est un ensemble musical traditionnel catalan qui est passé ici en concert à La Tentation. Et donc, on a eu l'occasion de rencontrer les musiciens. Alors, ce qui est assez original, c'est que cet ensemble joue avec, en ce moment, il tourne avec un DJ qui remixe des anciennes cobles, et donc voilà, ça donne des choses assez intéressantes, en tout cas en concert. On va écouter donc un petit extrait de Coble, la Coble Sant Jordi en concert à La Tentation, et puis on écoutera une interview avec celui qui a écrit des compositions pour Coble. Je lui donnerai son nom après. À Bruxelles à La Tentation, c'était il y a une dizaine de jours, et puis on a eu l'occasion de rencontrer donc Vincent Vidalou, qui est un musicien, compositeur ou arrangeur de Coble. On va l'écouter pour une petite présentation de la Coble.
C'est un orchestre de 11 musiciens, voilà, donc c'est une grosse formation qui tourne beaucoup en Catalogne. C'est vrai que c'est une musique traditionnelle très très vivante, puisqu'il existe à peu près une centaine d'orchestres de Coble qui tournent chacun entre 80 et 200 fois par an, donc c'est quand même très 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 vivant. Il y a pratiquement des associations de sardanes dans tous les villages de Catalogne, donc c'est une vie intense, quoi. Voilà. Mm-hmm. en un mot et demi, hein, le mot coble, c'est comme un couple, hein, c'est la même racine, et qui, depuis très très longtemps, le mot coble est utilisé donc, pour les orchestres qui animent les fêtes. Et cet orchestre s'est étoffé petit à petit, et il s'est fixé, on va dire, au début du 20e, fin du 19e, dans cette formation-là, 11 musiciens. Et donc, il y a encore fait office de tout. Peut jouer à la messe quand il y a une messe, peut accompagner des gens dans la rue, peut accompagner des événements. Et principalement aujourd'hui, son rôle principal, c'est la sardane. Donc, il y a la danse qui est devenue carrément emblématique en Catalogne, qui est une danse en rond avec deux pas principaux. Et voilà, et qui a pris tellement d'importance, notamment au moment de la Renaissance, qui est la renaissance de l'identité catalane au 19e siècle, une connotation danse nationale de Catalogne. Quoi, voilà. Donc c'est ça aussi qui fait la vivacité aujourd'hui de ces ensembles. Bon, et ça continue comme ça, et ça continue des CD, je sais pas, il en sort de cob, il doit en sortir 20-30 par an sur la Catalogne.
Donc c'est des musiques qu'on écoute aussi à la radio par exemple, ou des choses comme ça.
Bien sûr, ouais.
Ouais,
ouais, ouais. Mm-hmm.
Radio, télévision, d'ailleurs, il y a TV13, il y a la chaîne nationale catalane de télévision, ils ont carrément des émissions spécialisées là-dedans. Il y a des concours, on élit chaque année la meilleure sardane de l'an. Ça fait vraiment partie du quotidien, en fait, on s'en rend pas compte. Moi, j'ai grandi avec, j'ai pas été dans une école catalane, j'ai pas fait tout ça. Malgré tout, dans l'école publique à Perpignan, tu danses la sardane en fin d'année quand c'est la fête de l'école et tout ce genre de trucs, quoi. C'est prégnant.
Voilà, Raph Dumas et Vincent Vidalou au micro de Djiboutique. Et bien voilà. Bon, pour d'autres infos, donc il nous parlait ici de la coble. Et la coble, ben, on vous renvoie donc au site de la coble à Saint-Jordi. Donc ça s'écrit Cobla Saint-Jordi, où il y a des extraits musicaux. Vous pourriez voir ça, des chansons aussi. On vous renvoie aussi à Pascal Comelade, un catalan du sud de la France, enfin du nord de la Catalogne, on va dire. Et il a fait aussi rencontre avec la coble Saint-Jordi, et puis il y a énormément de CD qui sont de très bonne qualité. Il est passé en Belgique il y a quelques années. On parlait de la coble, cet ensemble musical, cette tradition qu'on trouve toujours en Catalogne et qui est très vivante. Et d'autres éléments culturels qui caractérisent la Catalogne. Alors récemment, il y a eu, je crois, en Catalogne, une forme d'interdiction de la corrida dans certains endroits. Bon, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas très bien l'Espagne, c'est quand même, ça fait partie des symboles qu'on associe parfois. Il y a le taureau, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en Catalogne et voilà, en quoi c'est important pour vous, Anthony,
oui,
ou les Catalans.
Les corridas ou le phénomène de la tauromaquie est lié à toute l'histoire de la Méditerranée. Mais depuis un certain temps, les Européens du Sud, la plupart des Européens du Sud qui le considéraient comme traditionnel s'en sont distanciés. Voilà, il y a 30 ans que les îles Canaries ont décidé de bannir dans leur territoire la pratique de la de Toreo. Et il y a eu en 2000 quelques, je sais que l'interdiction a commencé à prendre effet l'année passée, mais le passage parlementaire, je crois que c'était en juillet 2010, si je ne me trompe pas, mais ça a été suite à une campagne populaire assez importante, une initiative populaire de recueillie de signatures. Pour,
pétition.
Pour une pétition pour abolir, pour interdire la pratique qui est assez violente à notre avis, à l'avis d'une majorité sociale
apparemment
importante.
Si ça a été signé.
Et à la fin, on les a bannis.
Alors là, je m'adresse à Curro. Bon, la corrida, on en trouve un peu partout, enfin en Espagne, enfin jusqu'à maintenant. Comment est-ce que toi, par exemple, qui est plutôt du sud, tu verrais ça, enfin tu vois ça cette interdiction en Catalogne, est-ce que c'est vraiment une manière de se démarquer pour toi de l'identité espagnole ou...
Pour moi, c'est très bien. Je vois personnellement très bien le fait de interdire ça parce que pour moi, c'est une pratique très. C'est inhumain, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Après, culturellement, c'est vrai qu'en Catalogne, on observe qu'il y a une recherche des symboles autres que les symboles qui ont été choisis d'une façon un peu, je dirais, aléatoire, même si ça fait partie de la culture méditerranéenne, comme on disait tout à l'heure. Les taureaux, à la base, les taureaux qu'on trouve dans les routes en Espagne, c'était de la publicité, c'était de la pub d'Osborne. C'est une marque de vin, quoi. Donc,
ah, d'accord.
Oui, carrément. Ah ouais, carrément.
C'est pas le symbole de l'Espagne. C'est...
Quand moi, j'étais petit, il y avait Osborne et Criomba. Maintenant, ils ont retapé les mêmes affiches, disons, qui étaient publicitaires. Ouais. Et maintenant, c'est un symbole de la marque Espagne. C'est quelque chose qui est... qu'on s'est forcé à créer, mais que franchement, c'est, pour moi, c'est un pastiche. C'est un peu un pastiche, je ne sais pas si on dit comme ça en français.
Ouais, on pourrait dire comme ça.
Ouais. Ouais, d'éléments qui sont de chaque région. Et beaucoup de choses qui sont du pays, on a fait un ensemble. Uh-huh. Et voilà, entre elles, c'était les taureaux et les Catalans, ils ont choisi les ânes. Les Andes catalans.
Ça leur fait rire plus sympa. Les autres, ça.
Non, il y a des gens qui sont tout à fait contre. Moi je préfère, s'il faut choisir. Pour moi, c'est clair.
Ok. Je sais pas, Anthony, tu veux réagir ou...
Non, en fait, il a raison que c'est devenu un des symboles extérieurs les plus connus. Mmh. La lecture qu'on a fait, surtout donc, en tant qu'anglais domestique qu'en clé des médias qui sont venus s'intéresser par cette démarche législative, ça a été qu'on ne le fait pas parce que on se soucie du bien-être de l'animal, mais parce que en étant un symbole espagnol, on s'en dissocie. Mmh. Et donc là, il y a eu... Il continue à y avoir des débats à ce propos parce que, comme réaction à cette démarche, le ministère de Culture a annoncé il y a longtemps, donc peu après ce passage, qu'ils allaient déclarer officiellement les taureaux une fête d'intérêt culturel, comme quoi il faudrait pouvoir le voir et que ça se déroule dans tout le pays. Donc, pouvoir supprimer cette interdiction par la voie ministérielle, disons.
D'accord, ouais.
Mais c'est pas encore concrétisé, disons.
D'accord. Moi, je veux dire une énormité, il n'y a pas moyen de remplacer la corrida espagnole par la corrida portugaise, qui est beaucoup moins cruelle.
J'imagine que...
C'est intéressant de parler du portugais, en tout cas, puisque le portugais est présent à Bruxelles, alors que, bon, bah, le Portugal, c'est un pays... Voilà, c'est des langues qui sont proches, enfin, en tout cas, de ce qu'on... Là, je parle...
De la langue, là, ouais.
De la langue. De la langue, mais c'est parce qu'on y arrive tout doucement, je pense. Donc, je ne sais pas si, par rapport à la corrida portugaise... tu connais, Anthony?
J'en ai entendu parler. Moi, tout ce que c'est souffrance gratuite, surtout si ça a comme conséquence de tuer l'animal. L'animal, je sais qu'en Portugal, il ne maltraite pas au niveau avec des
c'est
armes.
C'est plus un jeu du cavalier, acrobatique, voilà. Ouais.
Moi, rien à dire. Moi, j'ai jamais aimé ces manifestations, mais...
Moi non plus, je ne suis pas trop pour. Hein.
Mais c'est moins cruel, à mon avis. Mmh.
Ok, donc on va passer à la question de la langue, donc puisque bon, il y a différentes régions ou sous-régions, on va dire en Catalogne, où on parle le catalan. Donc bon, on pourrait croire que c'est juste Barcelone et les environs, mais non, il y a un petit peu plus que ça. Et malgré la différence qu'il y a quand même parfois entre les différentes sous-régions. Les Catalans défendent l'unité de cette langue, tout comme en Flandre, malgré la diversité des accents, on défend l'unité du flamand. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, Anthony ?
Oui. Là, le point de base, c'est que je connais très mal les dialectes flamands. Je connais le Algemeen Beschaps Nederlands, qui a un traité international, le Taal Unie, avec les Pays-Bas. Donc là, c'est une unité qui n'est pas contestée. Il y a deux États, voire quatre, voire trois. Je crois qu'il y a Suriname aussi qui ouais. est partie signataire de ça. Donc là, c'est pas contesté, c'est des États souverains, etc. Le catalan est parlé dans un territoire, comme je te disais, où il y a 13 millions de personnes qui habitent. La communauté active linguistique, c'est environ 10 millions, pas plus que ça, en principe. On ne pas comptant la diaspora, qui était de plus en plus nombreuse, mais bon, c'est pas hyper important numériquement. Elle est parlée à la langue catalane est parlée au pays valencien, donc la communauté valencienne, aux îles Baléariques et Eivissa et Formentera, dans une petite ville à l'ouest de Sardaigne, Alguer, aussi donc dans le sud de la France que nous on appelle la Catalogne du Nord, et dans l'est de l'Aragon. Mais le problème au niveau de l'unité contestée, c'est que il y a des forces plus ou moins indigènes présentes dans les territoires, disons, périphériques de la communauté linguistique catalane, qui se mobilisent pour dire « nous, on ne parle pas du catalan, on parle du valencien ». Ou « nous, on ne parle pas le catalan, on parle, là maintenant, Aragon va voter après-demain ». Une loi qui retire reconnaissance officielle à la langue catalane et à la langue aragonaise, donc assez paradoxal. On aussi les rebaptisons et le catalan va commencer à se dire là-bas l'APAO, langue aragonaise parlée en Aragon oriental, donc qui est extrêmement cacophonique. Et en plus, ça conteste l'unité de la langue dans l'endroit, parce qu'il faut savoir qu'en Aragon, la partie catalanophone d'Aragon n'a jamais eu de fort courant migratoire autre qu'en d'autres territoires. Et là, le niveau de connaissance de vitalité de la langue est spectaculaire. Et c'est comme l'anglais en Angleterre, si l'on veut. Et là, le pouvoir régional aragonais va attaquer frontalement cette continuité. Donc, à Valence, même chose, mais à Valence, on n'est pas à 80 000 personnes, on est 4,5 millions. Il y a les autorités valenciennes qui sont aussi pour contester cette unité, parce que, pour finir avec ça, une unité culturelle, linguistique, ça a peut-être un jour risque d'avoir une traduction politique. Parce que quand on parle des pays catalans, on décrit une réalité socioculturelle, mais pour certaines personnes, on parle aussi d'un projet politique commun. Et là, c'est le danger de permettre que Valence et Barcelone, divisées par leurs langues communes, s'entendent bien un jour et disons, oublient...
Rapprochés par leurs langues communes.
Non. Le paradoxe, c'est divisé par leur langue commune. Donc à Valence, on parle la même langue qu'à Barcelone, mais c'est vraiment le cheval de bataille.
Le nom n'est pas le même.
Oui, voilà. Mais ça, traditionnellement, mais on a toujours dit on parle valencien, mais on se comprend. C'est la même langue parce que c'est dialectologiquement, c'est du catalan occidental et à Barcelone, c'est du catalan oriental. La régionalisation de l'Espagne a eu comme conséquence collatérale qu'il y ait un pouvoir autonomique qui nie l'unité de leur langue de référence, donc leur langue endogène, sa langue endogène. C'est un peu ça. Et pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose contre ça.
Mais alors justement, puisqu'on parlait de ça, tu nous as proposé un extrait musical qui illustre un petit peu cette question, puisque il s'agit d'un groupe Tio Cania, valencien, qui... Non, le groupe s'appelle Altai. Et il est assez connu, je pense. Curro, ça te... Non, ça te dit rien?
Donc Tio Kania qui lui raconte donc une histoire autour de la langue, mm-hmm. si j'ai bien compris.
Oui, il parle de la substitution linguistique dans le territoire valencien, là qu'on en parlait, donc de la, dans les endroits plus ruraux. Il y a 40 ans, il n'y avait aucun problème au niveau de la substitution linguistique, sauf aux écoles. Mais les grandes villes avaient une administration qui prenait, comparablement à d'autres pays européens aussi, donc une imposition de la seule langue officielle. C'était l'époque du franquisme, donc du coup, on avait si tu es espagnol, tu parles espagnol. Mmh. Donc, lui, il va à Valence, son fils apprend le castillan à l'école, ses enfants ne parlent pas de valencien, et les arrière-petits-enfants, enfin...
Oublié. Ah non,
ils récupèrent. Et c'est ça la conclusion heureuse de la chanson, disons.
Voilà, on va écouter Altaï, vous êtes sur Djibouti, Radio Panique.
En la pobla ni un vell, en la pobla ni un vell, que li diu en Tio Kania, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el Tio Kania a València, primer quan va entrar en quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua en presentar uns papers, per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguantar totes les burles, les paraules agrejades, i a la pobla va tornar.
Tio Kania, Tio Kania, no tens les baules a casa, posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada. Tio Kania, Tio Kania, no tens les baules a casa, posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada.
Tio Kania, tinga un fill, Tio Kania, tinga un fill, que li diuen Tio Kania, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Bé recorda el Tio Kania quan varen portar-lo a escola, 7 anys la cara ben neta, ulls oberts, camisa nova, però molt més va obrir els ulls el xiquet del Tio Kania quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, cada dia que passava, anava encollint els muscles per porar que el senyor mestre, per porar que el senyor mestre li ferà alguna pregunta. Aguantar castigs i renyes sense gosar d'obrir la boca i l'escola va odiar.
Voilà, dans Djibouti, alors à l'écoute de Altaï avec cette chanson sur le valencien et l'espagnol. Voilà, c'était Djibouti. L'émission se termine. En tout cas, je remercie beaucoup nos deux invités, Curro et Anthony. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, c'est vrai que pour le dernier petit mot, avant de se quitter, y a en ce moment, plus récemment encore, des affirmations d'autonomie et d'indépendance aussi en Catalogne. Il y a des questions politiques qui sont en jeu. Tu pourrais résumer ça un petit peu, Anthony, pour
tout finir. Brèvement, 20 voilà. secondes. Après des essais de réformer les équilibres après le pacte constitutionnel, Il y a eu une sentence en 2010 qui n'a pas été jugée favorable aux intérêts des Catalans. Et donc, du coup, là, il y a un très fort mouvement, soit pour l'indépendance ou pour l'autodétermination, donc pour exercer le droit à se prononcer sur la continuité ou non en Espagne.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos, ces apports. On va se quitter avec DJ Raf Dumas, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui a samplé et remixé des morceaux de Sardane. On remercie aussi Nathalie qui était à la technique. Merci beaucoup Nathalie. Et voilà, vous êtes sur Radio Panique, Djiboutique, la soirée continue. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao tout le monde.
Merci à tous.
Wow,
ciao, bonne soirée.
Look.